Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église, grâce et vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
Notre temps ensemble aussi, au nom de Jésus. Amen! Vous pouvez aller à l'éducation chrétienne. Les autres, vous êtes en état d'arrestation. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du gars qui s'est fait arrêter parce qu'il avait brûlé un stop. Alors, le policier l'arrête et dit, « Monsieur, il dit, est-ce que vous avez réalisé que vous avez brûlé un stop? » Et le gars répond, « Mais il y a des choses bien pires que ça dans la vie, monsieur l'agent. »« Ah oui? Comme quoi? » dit l'agent. Le monsieur dit, « J'ai un pistolet dans mon coffre à gants. » Et il dit, monsieur, il dit, avez-vous un port d'armes? Il dit, non, non. Il dit, j'ai pas un port d'armes, mais il dit quelque chose de bien pire que ça, monsieur l'argent. Il dit, vous savez que je pourrais vous faire arrêter, là. Oui, mais il y a quelque chose de bien pire que ça. Ah oui, comme quoi? Il dit, j'ai un cadavre dans la valise. Ah, ben là, le policier ramasse le chauffeur, le sort du véhicule, il met la tête sur le hood, il met des menottes dans le dos, puis là, il appelle du renfort. Le deuxième policier arrive, tu sais, puis... Fait que finalement, le deuxième policier arrive, écoute, c'est pas moi qui ai inventé ce joke-là. Fait que j'essaie de la répéter, d'être fidèle. Là. J'ai appelé la personne pour qu'elle la raconte. Au rap, tu feras une correction si tu veux là-dessus. Tu veux-tu la continuer? Mais là, c'est parce qu'on est sous enregistrement. Fait que prends le micro. François, viens en avant, on l'accueille. Yeah. C'est toujours mieux quand tu racontes ton propre témoignage. Là, non, c'est une blague. Tu peux aller pour la caméra? OK, recommence. Ah, il y a juste toi pour la compter comme ça, François. Hey, sérieux, là, une chance d'être venu à compter parce que c'est pas comme ça que je l'aurais raconté. Il me manquait un morceau dans ma joke, là. Je vais le réécrire tantôt. Là. Faut que je me pratique. C'est quand même. Il y a beaucoup de phrases. Tu sais, puis... Bon, écoute. Le gars, il s'en est bien sorti, finalement, mais il a menti, puis pour s'en sortir. Mais parfois, c'est le contraire, c'est qu'on a fait quelque chose qui n'était pas si grave que ça, puis on est accusé de quelque chose de plus important. Et dans l'histoire qu'on va voir aujourd'hui, Jésus se fait arrêter pour quelque chose de très grave qu'il n'a pas fait. Et puis, on veut l'amener à une arrestation qui va l'amener à un procès, puis qui va l'amener à la mort. Tu sais. Et il y a un sentiment chez les disciples d'être biaisé, de subir injustement la justice. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ou vous souvenez-vous d'un moment où vous avez été corrigé pour quelque chose que vous n'avez pas fait? Ou corrigé? Elle dit oui, je m'en souviens encore. Ça fait mal, tu veux t'en parler? Ou de façon démesurée, on vous a corrigé, mais on vous a corrigé, mais vraiment de façon trop exagérée. Comment est-ce que vous vous êtes senti à ce moment-là? Brisé ou encore dans une rébellion justifiée? Hein? C'est-à-dire que toi, tu as de l'autorité, tu étais supposé bien utiliser ton autorité, tu ne l'as pas utilisé, donc je me suis rebellé contre toi, puis en plus, je me suis donné raison de le faire parce que c'était pas correct ce que tu as fait. T'sais. fait qu'une rébellion justifiée, ou encore humiliée. Est-ce que vous avez senti que la vengeance pourrait avoir sa place à ce moment-là, puis dire « je lui ferai comme il m'a fait ». Moi, j'ai plusieurs histoires comme ça, mais une en particulier qui, je sentais, me donnait la permission de checker l'adresse du gars puis d'aller crever ses pneus. C'était lorsque je me suis fait arrêter en retour d'un voyage avec l'Église où, pour faire une histoire longue, courte. J'avais des gens qui dormaient dans mon véhicule, puis il y avait des zones assurées sur le bord du chemin, puis j'avais juste tassé un peu mon auto, que ça fasse brouh, juste pour les taquiner un peu, tu sais, mais sous contrôle, là, tu sais. Puis là, l'autre en arrière, qui était une de nos amies de Grimby, elle a parti, puis elle a commencé à faire du slalom en arrière, puis à s'amuser, mais elle a fait plus pire, tu sais. Fait que là, il y avait quelqu'un qui était peut-être à 150 mètres en arrière, qui, lui, a appelé les policiers. Et là, 40 minutes plus tard, c'est là que j'ai découvert que c'était lui, parce qu'il était resté là tout le temps, il n'osait pas nous dépasser, tu sais. Il pensait que c'était une course, là. Fait que les policiers sont arrivés, puis ils m'ont suivi, là, pendant longtemps. Puis un deuxième policier est venu, puis il a flyé à tout à l'heure. Puis là, les cerises ont parti, puis ils m'ont mis en sandwich, là, les deux chars de police. Et là, ils ont ouvert le code criminel sur le haut de mon char, puis ils essayaient de trouver une façon de m'inculper pour conduite criminelle. Hey, la grosse affaire, là. C'était dans un pays où les gens sont fiers. Tu sais, on peut se rendre là en véhicule. Mais ils ne sont pas tous comme ça, par exemple. Mais c'était des policiers qui étaient fiers, tu sais. Puis c'est venu que chercher quelque chose en moi, là. Puis là, je regardais sa badge puis son nom, j'essayais de mémoriser son nom, je vais aller crever tes pneus, toi, tu sais. En vous épargnant le pire, que j'ai trouvé en moi le pire. J'étais comme, aïe, aïe. Après ça, j'ai dit, c'était en moi, ça. Une méchanceté de, tu m'as humilié, puis ça me fait je sortais avec 390 US d'amende, puis une possibilité d'aller en prison. Fait que la femme qui est en, hein? Parce qu'ils pensaient que moi, je faisais le slalom, puis qu'on on voulait envoyer l'autre dans le champ, mettons. Non, je l'ai payé, puis ça finit direct là. J'ai fini par l'oublier. Donc, j'ai découvert dans mon cœur qu'il y avait une injustice qui était là face à une injustice. Et je pense qu'on a ça dans notre cœur, mais ça sommeille, c'est là. Et on a la tentation, des fois, de corriger un mal en faisant un autre mal. Et le naturel qui vient dans notre cœur, dans notre pensée, c'est pas le pardon en premier puis le relâchement de la dette de l'autre, c'est « j'espère qu'il va se faire faire la même affaire qu'il m'a fait ». Et donc, c'est pas naturel pour nous, la grâce, le pardon et tout ça. Et pour pouvoir arrêter Jésus en justice dans le jardin de Gethsémané, pour pouvoir l'arrêter en toute justice, c'est-à-dire lui faire justice, il a fallu briser la loi à plusieurs égards. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, pour pouvoir l'arrêter, il a fallu pratiquer l'injustice. Et on va voir des bons exemples de ce que Dieu veut qu'on s'éloigne d'aujourd'hui par rapport à la justice. Donc, les versets qu'on va regarder aujourd'hui, là, on est dans une série sur les évangiles. Et ce sont les quatre évangiles qui parlent de cette histoire-là. Si vous voulez tourner dans vos Bibles, tournez dans Jean. Jean, chapitre 18, on va lire du verset 2 au verset 12. Si vous n'avez pas le temps de tout noter les versets, jusqu'à la fin de la présentation, les versets vont être en bas de page. Vous allez pouvoir prendre le temps de les noter tout au long de la prédication. On va lire, si vous voulez, Jean 18, versets 2 à 12. Si vous vous rappelez bien, dans le dernier message que j'ai fait, c'était Jésus dans le jardin de Gethsémané. Jésus vient de prier avec ses disciples. Ses disciples se sont endormis. Et Jésus a agonisé, a souffert, il a suivi des grumeaux de sang, et il a demandé au Père si la coupe pouvait s'éloigner de lui. Et on a vu que la coupe, ce n'était pas de ne pas mourir. C'était si c'était possible de ne pas subir la colère du Père pour nos péchés. S'il y avait un autre moyen, il aurait aimé l'avoir, mais c'était pas, il ne voulait pas s'éloigner de la croix. Et donc, on continue dans cette histoire-là, et là, on lit Jean, chapitre 12, verset 2. Judas, celui qui le trahissait, connaissait aussi l'endroit parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas prit donc la troupe de soldats romains, ainsi que les gardes envoyés par les chefs des prêtres et les pharisiens, et s'y rendit avec les lanternes, des torches et des armes. Jésus, qui savait tout ce qui devait lui arriver, s'avança alors et leur dit, « Qui cherchez-vous? » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « C'est moi. » Judas, celui qui le trahissait, était avec eux. Lorsque Jésus leur dit « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau « Qui cherchez-vous ? » Ils dirent « Jésus de Nazareth ». Jésus répondit « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez partir ceux-ci. » Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait prononcée « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Verset 10. Alors Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans son fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? » Et la troupe, le commandant et les gardes des Juifs s'emparèrent alors de Jésus et l'attachèrent. Alors, ça se passe quand? Ça se passe le 7 avril de l'an 30, quand? À peu près dépassé minuit, après le souper de la Pâque, de la veille. Et donc, pour bien comprendre ce qui se passe, ce qu'on vient de lire, pour bien comprendre le contexte de ça, il faut comprendre le système légal en Israël. Okay? Comment ça se passait en ce temps-là? La raison pourquoi on amène Jésus-Christ en procès, c'est parce qu'il a brisé la loi des Juifs. Non pas la loi de Moïse, mais la loi orale, c'est-à-dire tous les autres commentateurs qui avaient parlé. On appelait ça la Mishnah. C'est une tradition orale. On disait que Dieu avait écrit, Moïse avait écrit les 10 commandements plus les 600, les 500, les 500-600 lois sur le mont Sinaï. Je pense que c'est 610, là, mais je ne suis pas sûr. 613 dans ce coin-là. Mais que tout le reste, il l'aurait dit à Moïse, puis que ces paroles-là auraient été réécrites par les commentateurs plus tard. Okay? Fait qu'il appelait ça la loi orale. Et il plaçait ça au même niveau que la loi de Moïse. Et Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, lorsqu'il faisait son ministère, il se plaisait des fois à briser la loi orale pour montrer que ce n'était pas la loi de Moïse, puis qu'il n'avait pas à se soumettre à cette loi-là. Et donc, on le mettait à la croix parce qu'il avait brisé la loi, non pas de Moïse, mais la loi orale. Ce qui est intéressant, c'est qu'on veut le condamner pour avoir brisé la loi orale, mais pour pouvoir le condamner, on brise 22 lois. Ça, c'est comme si, par exemple, on racontait que quelqu'un répand les confidences des autres. Mais qu'en disant que la personne répand les confidences, on n'arrête pas de répandre des confidences à son sujet. Essayer de faire comme condamner quelqu'un puis faire la même affaire que cette personne que tu condamnes, c'est exactement ce qui se passe dans le jardin de Gethsémané, puis aussi jusqu'à la crucifixion. On va les regarder ensemble, puis aujourd'hui, on va en voir trois qui ont été brisés, puis tout au long des prochains messages, on va les revoir. Les lois. Il ne devait pas y avoir d'arrestation par les autorités religieuses à cause d'un pot de vin, comme le spécifie Exode 23:8. Il ne devait pas y avoir de procédure judiciaire après le coucher du soleil. Les juges et les membres du Sanhédrin ne pouvaient pas faire partie de ceux qui font l'arrestation. Il ne devait pas y avoir de procès avant le sacrifice du matin. Il ne devait pas y avoir de procès privé, seulement des procès publics. Les procès ne pouvaient avoir lieu que dans la cour de jugement du terrain du temple. Les procédures étaient la défense, premièrement, puis ensuite l'accusation. Tous pouvaient argumenter en faveur de l'innocence, mais personne ne pouvait argumenter en faveur de la condamnation. Il devait y avoir deux ou trois témoins et leur témoignage devait s'accorder sur tous les détails, selon Deutéronome 19:15. Il ne devait pas y avoir de compensation monétaire pour qu'un témoin témoigne contre lui-même. Donc, il donnait de l'argent pour dire que c'est lui qui a tort, finalement. Les souverains sacrificateurs ne devaient pas déchirer leurs vêtements, tels que prescrits par Lévitique 21:10. Les accusations ne devaient pas venir du juge. Il se devait d'investiguer les charges qui lui étaient présentées. Les accusations de blasphème n'étaient valides que si le nom de Dieu avait été prononcé. Une personne ne pouvait être reconnue coupable que par ses propres aveux. Donc, ça prenait d'autres. Tu ne peux pas juste te condamner toi-même, finalement. Le verdict ne pouvait pas être prononcé la nuit, seulement le jour. Dans le cas d'une peine capitale, le verdict de culpabilité et l'exécution devaient être séparés de 24 heures. Lors d'un vote pour une exécution, le vote commençait par les plus jeunes afin qu'ils ne soient pas influencés par les personnes plus vieilles. Une décision unanime en faveur de la culpabilité démontre l'innocence puisqu'il est impossible pour entre 23 et 71 hommes d'être tous d'accord sans avoir comploté. Donc, c'est impossible d'avoir l'unanimité. S'il y avait unanimité dans un vote, il y avait une décision d'innocence. La sentence était prononcée 3 jours après le verdict, pas avant. Donc, une fois qu'il avait fait voter la sentence pour une peine de mort, il fallait attendre 3 jours avant de la proclamer. Puis ensuite, il fallait attendre 24 heures pour l'exécuter. Ça nous amène à 4 jours avant de pouvoir exécuter quelqu'un à mort. Les juges devaient être humains et gentils. Une personne, imagine, tu t'en vas sur le poteau, là. Il y en a au moins un qui est courtois avec toi, c'est lui. Tu sais. Les juges devaient être humains et gentils. Une personne condamnée à mort ne devait pas avoir été flagellée ou battue d'avance. Aucun procès n'était permis la veille du sabbat ou dans un jour de fête comme la Pâque, les jours de pain sans levain, etc. OK. Donc, on a ces lois-là. Donc, vous pouvez voir déjà, juste en lisant les lois, que le procès de Jésus était très injuste. Très injuste. Mais on va regarder ça un petit peu plus en détail. Donc, en étudiant les événements de la dernière nuit, on va pointer vers les lois qui ont été violées durant le message aujourd'hui. Donc, on va commencer avec le verset 2. « Judas, celui qui le trahissait, connaissait aussi l'endroit parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. » Donc, la loi numéro 1 est brisée avec Judas parce qu'il ne devait pas y avoir d'arrestation par les autorités religieuses à cause d'un pot de vin, comme le spécifie Exode 23, verset 8. On se rappelle que Judas a reçu le montant de 30 pièces d'argent qui équivalait à la compensation pour un esclave mort. Hein? Donc, dans Zacharie, c'est écrit « Quel salaire me donnerez-vous? » Et là, il dit 30 pièces d'argent. T'sais? C'est comme ça que vous m'avez évalué. Donc, ce prix méprisable-là était prévisible chez le peuple juif. Et pour 30 pièces d'argent, Judas a accepté de faire une transaction. Et on avait besoin de Judas. Pourquoi est-ce qu'on avait besoin de Judas? On avait besoin de savoir où était Jésus parmi la multitude, parce que dans les fêtes de Pâques, qu'est-ce que les gens de partout dans Israël, du Nord et des autres provinces, des autres États, si on peut dire, ou patries, là, ou je ne sais pas comment appeler ça, autres villes d'Israël, descendaient, puis allaient ou montaient, quelques-uns montaient, ceux qui étaient en Benjamin, montaient, et puis faisaient des tentes et habitaient tout autour, là. Donc, tout était occupé. Et donc, on voulait se saisir de lui là. Mais je ne sais pas si je vais en parler tantôt, mais ce n'était pas supposé d'arriver là. Mais Jésus, dans le dernier repas, il a dit, « Fais ce que tu as à faire. » Fait qu'en faisant ça, Judas a précipité l'arrestation parce que là, ils sont obligés de briser plein de lois. Là. Jésus a précipité l'affaire. Puis, eux autres ont commis plein d'injustices pour pouvoir le faire, parce que là, puisque Jésus savait que Judas était celui qui était pour le trahir, puis il a dit « Fais ce que tu as à faire », il a comme fait avancer le chrono plus vite. Et là, ça a créé ce qu'on appelle une tactique d'erreur. Il a poussé son adversaire à faire des erreurs en faisant ça, Jésus. Et Jésus contrôle l'agenda. Il donne sa vie. C'est lui qui la donne, c'est personne qui lui prend. Donc, il est en charge de l'horaire, si on peut dire. On veut savoir où est Jésus dans la multitude, puis le retrouver. Puis à Judas, c'est écrit, on a lu, qu'il savait où le trouver, parce qu'il se réunissait souvent dans le jardin de Gethsémané. C'est un endroit qu'il était habitué, donc Judas connaissait les habitudes. Qui de mieux que Judas pour savoir où retrouver Jésus dans cette multitude-là? Deux, pour pouvoir convaincre un gouverneur d'amener entre 400 et 600 soldats, il faut que tu aies un témoin crédible. Et donc, si tu peux avoir un des 12 qui a mangé avec lui, qui a voyagé avec lui, qui reste avec lui, qui sait où ce qu'il est, eh bien, Judas, non seulement est un témoin passif de dire « c'est là », non, il a dû aller se présenter devant le gouverneur pour justifier qu'on relâche une cohorte qui est entre 400 et 600 soldats. Et ce n'est pas une simple chose passive, mais il a dû entrer dans une machination contre celui qui l'appelle son ami. Jésus a dit « mon ami » quand il l'a vu dans le jardin. Pour Jésus, Judas, c'est son ami. Et donc, ce n'était pas le plan des conspirateurs de faire ça à la veille de Pâques. Jésus a forcé la main de Judas pour précipiter en dénonçant dans le dernier souper, je l'ai dit tantôt. Et la raison, c'est pour ça qu'il y a du chaos cette nuit-là, et c'est pour ça que toutes ces... C'est la machination qui ne suit pas le plan qui avait été déterminé d'avance. Une autre chose qu'on a besoin de Judas, c'est qu'éventuellement, il va falloir qu'il vienne à la barre. Il va falloir qu'il vienne, quand ça va être le temps de condamner Jésus, il va falloir qu'il aille se prononcer pour faire partie des accusateurs. Pas des témoins, mais des accusateurs. Et on sait que Judas ne s'est pas rendu là. Et en étudiant ça, j'ai réalisé que Judas s'est suicidé avant parce qu'il ne voulait pas aller là. Il ne voulait plus avancer dans le plan qui, normalement, avançait, même si lui ne voulait plus que ça avance. C'était parti, cette affaire-là. Une des plus grandes conspirations que le monde ait connues. Ensuite, on voit dans le verset 3, « Judas prit donc la troupe de soldats romains, ainsi que des gardes envoyés par les chefs des prêtres et des pharisiens, et il s'y rendit avec des lanternes, des torches et des armes. » C'est quand même spécial. Judas est à la tête des soldats. Regardez le texte. Il prie avec lui, il prie la troupe de soldats romains. Il n'a pas pris un rôle passif. Il dirigeait les soldats vers son Seigneur, vers celui qui l'appelait son ami. Et donc, une cohorte, le mot pour cohorte, dans le rap dimanche passé, les gens disaient, hey, 400, 600 soldats, où c'est que tu as pris ça? Eh bien, le mot original il devrait être traduit par cohorte ici, ou troupe de soldats, et c'est entre 400 et 600 soldats. Voyez, des lanternes, des torches et des armes. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut faire ça après le coucher du soleil, nécessairement. Et donc, il ne devait pas y avoir de procédure judiciaire après le coucher du soleil. Deuxième loi qui a été brisée. Dans le texte, on voit que le capitaine du temple, plus tard, on voit le capitaine du temple, et sérieusement, Malchus, je le voyais juste comme un autre des soldats. Mais Malchus, qui s'est fait couper l'oreille, c'était plus qu'un des soldats. C'était le serviteur du grand prêtre, appelé aussi le chef ou le capitaine du temple. Au verset 10, on lit qu'il s'est fait couper l'oreille, il représente le grand prêtre. Il est là en tant que représentant du grand prêtre avec les chefs des prêtres. Et le grand prêtre n'est pas là. Parce que demain, il va faire le sacrifice pour tout le peuple, une fois par année. Hein? Le sacrifice qu'on appelle le sacrifice de Yom Kippour, c'est le sacrifice d'expiation pour tout le peuple. Et donc, il se met à part pour ne pas être souillé, et donc il n'est pas présent dans le jardin de Gethsémané. Les gardes envoyés par les chefs des prêtres étaient la force policière du temple. Donc, quand on voit les gardes envoyés par les chefs des prêtres, c'était les policiers sur le terrain du temple. Ils étaient présents. Les membres du Sanhédrin aussi étaient là. Les membres du Sanhédrin, c'est les 70 qui dirigeaient les affaires légales. Hein? Parce que Luc dit, quand vous voyez le mot « ancien » ici, en tout cas dans ce contexte ici, les anciens, c'était les membres du Sanhédrin. Ensuite, Jésus dit aux chefs des prêtres, aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus pour l'arrêter, « Vous êtes venus comme pour un brigand avec des épées et des bâtons. » Donc ici, le mot « ancien », ça réfère aux dirigeants du Sanhédrin. Et en faisant ça, on brise la troisième loi qui dit « Les juges et les membres du Sanhédrin » ne pouvait pas faire partie de ceux qui font l'arrestation. Se faire justice en commettant une injustice. Et ça, c'était exactement ce qui était en train d'arriver. Et je pense qu'on a le goût de faire une injustice quand quelqu'un a fait une injustice encore plus. Et c'est ce que Pierre va être tenté de faire avec son épée. On va en parler un petit peu plus tard. Ça commence à faire du monde quand même. 400, 600 soldats, les policiers du temple, les chefs des prêtres, et même Matthieu dit une foule. Jésus va dire à la foule, vous êtes venus comme auprès d'un brigand avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. Le mot que Jésus va utiliser, c'est foule. Et le mot oklos, oshlos ou oklos, ça veut dire une foule, une masse de gens confus, une multitude, un grand nombre. Fait qu'il y avait beaucoup de gens dans un petit jardin pour venir l'arrêter comme un brigand, avec des bâtons puis des épées. Jésus, qui savait tout ce qui devait lui arriver, s'avança alors et leur dit, « Qui cherchez-vous? » On voit que Jésus sait qu'est-ce qui va lui arriver. C'est prévisible. C'était annoncé par les prophètes qu'il serait mis à mort. Psaume 22 est assez détaillé, ça ressemble beaucoup à la crucifixion. S'il n'aurait pas été comme Arnold Fruttenbandi, s'il ne l'aurait pas été par son propre peuple, il l'aurait été par les Romains, parce que les Romains n'acceptaient pas un rival à côté de l'empereur. Donc, il serait mort de toute façon crucifié. Et Jésus sait que ça s'en va vers là, puis il dit dans le jardin, il dit « L'heure des ténèbres approche ». On va lire le dernier verset qu'on va étudier aujourd'hui, il va dire « C'est maintenant l'heure des ténèbres ». Alors, Jésus qui est près du Père, connaît exactement ce qui est en train d'arriver. Et donc, il sait ce qui lui est en train de lui arriver, et c'est lui qui prend le contrôle. Puis c'est lui qui a pris le contrôle dans le souper. Quand il a dit « Judas, fais ce que tu as à faire », il est en train de exactement contrôler la game. Et il dit « Qui cherchez-vous? » Et il va dire, ils vont dire « Jésus de Nazareth », et lui, il va répondre « Je le suis ». Dans votre version, vous avez « Je le suis », mais dans l'original, c'est « Je suis ». Je suis, ça vous fait penser à quoi, ça? Le nom de Dieu. Quand est-ce, là, dans la Bible, on a entendu parler de ce nom-là, la première fois? Oui. Donc, dis-leur, je suis. Donc, ce n'est pas j'étais ou je serai, c'est l'éternel est, l'éternel Dieu, dans le fond. C'est pour ça, nous, dans nos Bibles, souvent, on va avoir l'éternel au lieu de... Parce que le nom, c'est YHVH, ça ne se prononce pas. Alors, Louis II, lui, a traduit ça par l'éternel, celui qui est éternel. Celui qui est, pas celui qui était ou celui qui sera, celui qui est. Et Jean, ce qui est spécial, c'est que Jean, au dernier chapitre de son évangile, il dit « Je vous écris ces choses pour que vous croyiez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Okay? » Et dans l'évangile de Jean, j'ai répertorié une dizaine de fois le mot, l'expression « ego eimi » dans Jean. « Je suis le pain vivant. Je suis la lumière. Je suis d'en haut. » Avant qu'Abraham soit né, il y a eu un début dans son existence, « Je suis ». Je suis la porte des brebis. Je suis le bon berger. Je suis la résurrection et la vie. Pour que vous croyiez que je suis, celui-là, je pense que, ah oui, je suis le chemin et la vie. Je suis la vigne. Puis là, aujourd'hui, il l'a dit aussi, je suis. C'est, pour un juif, quand il entendait ça, là, ça le choquait. Parce que quand il disait je suis, il répétait les mots que Dieu avait dit à Moïse. Et dans, je pense que c'est dans Luc, il parlait encore quand une foule arriva, et celui qui s'appelait Judas, et l'un... Oups, c'est pas ça. Je pensais que je l'avais, mais je l'ai ici. Je pensais que je l'avais dans Luc 22. Mais dans Luc 22, tous dirent, « Tu es donc le Fils de Dieu. » Il leur répondit, « Vous le dites, je suis. » Dans l'original, c'est « Ego eimi ». Alors, ils disent, « Qu'avons-nous encore besoin de témoignages? Nous l'avons entendu nous-mêmes de sa bouche. » Et là, il était prêt à le mettre à mort. Pourquoi est-ce que les Juifs étaient frustrés de ça? C'est parce qu'ils disaient « Je suis ». Ils disaient le « Je suis » que Dieu avait dit à Moïse. Hein? Et donc, quand il dit « Je suis », qu'est-ce qui arrive? Le premier soldat tombe par en arrière, s'enfarge dans l'autre, l'autre s'enfarge dans l'autre. Peut-être. Peut-être que les 400, sont, 600 sont tombés comme ça. Mais je pense qu'il y avait une autorité quand il a dit « Je suis » et ça les a fait tomber à la renverse. Alors, quand vous lisez la Bible et vous voyez des gens tomber à la renverse, c'est toujours un symbole de jugement. Hein? Quand vous voyez des gens s'émerveiller devant une révélation de Dieu, c'est par en avant. Ils se tombent sur leur face. Quand ils tombent à la renverse, comme Élie, le sacrificateur, qui est tombé à la renverse, il casse le cou, il est mort. Quand vous voyez des gens tomber à la renverse, qui perdent le contrôle de leur personne, c'est plus un symptôme de jugement ou un symbole, si on voudrait mettre un symbole, que de bénédiction. Alors, quand vous voyez les mouvements de gens qui se font... En anglais, il dit « slain by the Spirit ». C'est comme frappé de l'esprit, puis les gens tombent sur le dos. C'est... Quelle est la fondation biblique de ces choses-là? Mais non, ce n'est pas le point de notre enseignement. Mais c'est intéressant, Jésus a de l'autorité, et pourtant il se laisse arrêter. Jésus, c'est le créateur du monde. Ces gars-là respirent à cause de Jésus. Il maintient toute chose dans l'univers par lui. Jésus a l'autorité, mais il se laisse arrêter. Et donc, on voit le prochain verset dans Jean 18, verset 8. Jésus répondit, « Je vous ai dit, c'est moi. » Donc, si c'est moi que vous cherchez, laissez partir ceci. Jésus aime ses disciples, puis il souhaite que la peur les fasse déguerpir. C'est comme, « Ouais, pousse-toi. Tu » sais. Il les aime. Et il a dit ceci afin que s'accomplisse la parole qu'il avait prononcée, « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné. » Quand est-ce qu'il a dit ça? Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné. Quand est-ce qu'il dit ça? Oui, c'est dans une prière. Exactement. Jean, quoi? C'est combien de chapitres avant? C'est dans la même soirée. C'est dans la même soirée qu'il a prié ça. Donc, Jésus a prié et a dit, « Seigneur, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné. » Et c'est accompli cette promesse-là, ou ce que Jésus avait dit, et Jean, il reconnaît que ce qu'il avait dit cette soirée-là, quand il avait prié le Père qu'il soit protégé, bien, c'est leur porte de sortie, puis les soldats les ont laissés partir. Donc, personne n'a perdu leur vie là. Hein? Par contre, s'ils utilisent l'épée, ils vont mourir ce soir. Ils vont mourir ce soir. S'ils utilisent l'épée, ils vont mourir ce soir. On va voir ça un peu plus tard. Chapitre 22 de Luc, il dit, « Il parlait encore quand une foule arriva. Celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour l'embrasser. Et Jésus lui dit, « Judas, c'est pour un baiser que tu trahis le Fils de l'homme. » Donc, Jésus l'avertit avant qu'il donne son baiser. En grec, c'est un bon baiser. Un gros baiser, une grosse embrassade, un gros câlin. C'est gros, c'est intense. Dans le grec, on voit que c'est une grosse embrassade. Et il faut encore comprendre que chez les Juifs, le baiser d'un élève à son rabbin, c'est quelque chose qui veut dire soumission, honneur, hommage. Et en plus de rajouter l'injure à l'insulte, Judas va l'appeler rabbin, rabbi. En plus, il va faire ça. Judas a profané Jésus en utilisant un symbole qui était cher chez les Juifs de « je me soumets, je t'honore, je te rends hommage, puis en plus je t'appelle rabbin ». Il faut comprendre, là. Comprendre la culture. Et l'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus prit la parole et dit, « Laissez faire, arrêtez! » Puis il toucha l'oreille de l'homme et le guérit. Des fois, je dis, il l'a ramassé puis il a recollé. Mais c'est une expression que j'ai. Je ne sais pas s'il a repris l'oreille puis il a remis. Aussi. Ben, le texte dit qu'il a touché l'oreille. Est-ce qu'il a touché à son oreille? Puis il a, je ne sais pas. Mais c'est fascinant quand même. Ça me fait rire quand je vois ce texte-là que Jésus dit, « Arrêtez! » Et je pense que Jésus, des fois, il va nous dire à nous autres, « Hey, wow! » Arrête, là. Arrête. Reste. Non, non. Pierre, il est mentionné juste par Jean. Jean, il est le disciple que Jésus aime, puis Jean, il n'a pas peur de révéler les choses. Les autres, ils disent tout. Un des disciples qui était là, coupe à l'oreille, tu sais. C'est comme s'il y a une condescendance, il y a un respect entre chacun des ceux qui ont écrit, tu sais. Mais Jean lui dit, non, c'est Pierre. Puis, Luc est le seul à rapporter le miracle de l'oreille. Pourquoi est-ce que Luc est le seul à rapporter cette guérison-là, vous pensez? Oui, c'est un docteur. Yes. Donc, Jésus va enseigner Pierre, mais c'est Matthieu qui va prendre les trois choses qu'il lui a enseignées. Et on va le lire dans Matthieu 26. Il dit, « Alors Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? » Et comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? Premièrement, une des choses qu'on apprend dans ce verset-là, c'est que vivre par l'épée meurt par l'épée. Je pense, puis j'ai posé la question à Pasteur Pat, mais mon opinion personnelle, c'est que Jésus a dit, j'ai gardé tous ceux que tu m'as donnés. Il n'y en a aucun qui se sont perdus, puis ils vont les laisser partir. Mais que si, Jésus est en train de dire, par contre, si vous prenez l'épée, vous crevez à soir. Parce qu'ils sont 600, là, plus tous les autres, là, avec les bâtons. Là. Vous n'en sortez pas vivant à soir. Je vous garde, mais prenez pas l'épée. Arrêtez, hein, le texte disait arrêtez. Mais je pense qu'il y a aussi un concept quand même assez général qui dit que si tu utilises l'épée, tu as peut-être plus de chances de mourir par l'épée. Si tu commences une guerre, ça se pourrait que cette guerre-là t'achève. Et donc, arrêter, c'est à un moment donné de dire, « Hey, sais-tu quoi? Si tu fais la même injustice qui t'a été faite, est-ce que tu répares une injustice par une injustice? » Puis, est-ce que tu penses sérieusement que ça va arrêter là? Moi, je travaillais avec un gars, puis il m'a dit, « Moi, là, quand quelqu'un m'écœure, c'est pas compliqué, je lui montre ce que je suis capable de faire. » Fait qu'il dit, « Moi, à un moment donné, il y a un boss qui m'appelait, puis il n'arrêtait pas de me dire, « Regarde, tu vas revenir travailler pour moi. » Puis là, il a dit, « Je te dis, si tu m'appelles une autre fois, je vais aller faire couler ton voilier. » Fait que le gars, il a continué à l'appeler pour l'harceler. Il est allé chez eux. Il a pris une très grosse roche. Il l'a mis dans son voilier, puis il s'est en allé. Puis il dit, tu sais, il dit, quand tu te chicanes sur la route, là, t'envoies pas des fingers, là, puis tu commences pas à crier à la prochaine lumière. Tu ralentis, tu te mets plus loin, tu regardes où ce qui reste, puis tu te reprends. Puis à un moment donné, j'ai eu une double crevaison sur le pont Champlain. Puis il s'était passé quelque chose avec lui. Genre, il y avait un calendrier de femmes pas habillées. Fait que moi, on l'avait tourné, tout simplement, pour pouvoir continuer le travail, mais on avait oublié de le remettre comme sur sa face droite. Fait que j'ai eu une double crevaison sur le pont Champlain. Et je pense que c'était causé par ça. Pourquoi je dis ça? Ouais, si tu utilises la confrontation, ouais, je ne suis pas en train de vous dire de devenir plus ingénieux au mal, j'espère que non. OK, en tout cas, vivre par l'épée, mourir par l'épée, je pense qu'il y a un concept qui est général, mais je pense que Jésus, quand il disait, tu sais quoi, on arrête ça là. Parce que si vous prenez l'épée à soi, vous mourrez à soi. Puis lui, il voulait les garder. Et donc, l'autre chose qu'on apprend, c'est que le moyen de défense, si Jésus avait choisi un moyen de défense, ça n'aurait pas été l'épée, ça aurait été... Et j'ai aimé ça, parce que même s'il a l'autorité sur les anges, il a été placé pour un temps sous les anges, serviteur des hommes. Et donc, il a dit, si je demanderais à mon Père qu'il me donnerait 12 légions d'anges. J'étais émerveillé de voir la soumission du Fils. Et je pense que ce qu'on a besoin d'apprendre dans cette histoire-là, nous autres aussi, c'est que quand il y a quelque chose d'injuste qui nous est fait, on doit apprendre de la soumission de Jésus à son Père. Puis on doit dire, Seigneur, je veux me soumettre à toi et je vais faire comme tu veux, mais toi, fais-moi justice, mon Dieu. Toi, fais-moi justice. Tu vois que j'ai été biaisé, tu vois quelque chose qui n'est pas juste qui est arrivé. Seigneur, Père, je me soumets à toi. C'est dans un esprit soumis que je vais agir dans cette situation-là. Je n'agirai pas juste en victime, en pauvre victime que je suis. Non, je vais prendre contrôle de ce que je suis capable de faire. Ce que je suis capable de faire, c'est d'être responsable de mes actes devant mon Dieu, devant mon Père, et je vais essayer d'agir le mieux possible dans cette situation-là. Et donc, Jésus ne parle même pas de légitime défense, même si on peut utiliser légitime défense, on ne peut pas utiliser l'arme pour défendre l'Évangile. On peut l'utiliser pour défendre sa propre vie, parce que la Bible nous dit qu'on peut se défendre quand on est attaqué avec une arme, hein? Mais on ne peut pas défendre l'Évangile avec les armes. Ça, c'est important. Puis faire sa propre justice. Puis une autre chose aussi qui est intéressante, qu'il enseigne à Pierre, il y a tous les soldats, il y a toute cette tension-là, puis Jésus prend le temps encore de dire à Pierre, « Ne devrais-je pas boire la coupe que je devais boire? » Puis il avait net prié, éloigne-moi de moi cette coupe. Et donc, la prière avait fait son effet. Les anges étaient venus fortifier Jésus. Dans le jardin, on lit ça, hein, que les anges sont venus le fortifier, peut-être en lui rappelant des textes de l'Ancien Testament, pour lui montrer qu'il y aurait un impact au travers les nations. Et puis, il dit, « Ne boirai-je donc pas la coupe que mon Père m'a donnée à boire? » Et donc, il prend le temps d'enseigner malgré la crise. Les disciples s'enfuient comme Jésus l'avait prédit. Hein? Il leur avait dit, « Frappez le berger et le troupeau va se répandre. Frappez le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. » Et Jésus est en train de dire aux soldats, « Vous m'avez trouvé là? Laissez-les eux. » Et il prend soin d'eux et enfin, on les laisse partir. Dernier verset qu'on regarde ce soir. Je me lève à 5 heures à cette heure. Hein? Moi, je suis rendu à l'heure du souper et vous? Mais je trouve ça plus facile le dimanche à cette heure, parce que vu que je me lève toujours à 5 heures, pas juste le dimanche, là, je suis dans ma routine, fait que c'est le fun. OK, Marc 14, verset 50. « Alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite, et un jeune homme le suivait, n'ayant sur le corps qu'un drap. On se saisit de lui, mais il lâcha le vêtement et se sauva flambant nu. » Voyez-vous qui a écrit ça? Ouais, c'est Pierre, en fait, qui écrit l'évangile de Marc. On pense que Pierre était illettré, que c'était Marc qui faisait son secrétaire. On sait que Marc, ce n'est pas un témoin visuel, c'est un des collègues de voyage de Paul, c'est un ami dans le ministère de Pierre aussi. Donc Marc, je vais rétracter et dire qu'il n'est pas dans les 12, là. Je pense que j'ai dit une niaiserie, là, okay? Fait qu'effacez ça sur votre cassette. Marc était avec les disciples, puis il a parlé d'un jeune homme qui s'est sauvé. Tu vois, quand on parle beaucoup, on ne manque pas de faire des erreurs, mais au moins, je vais me rétracter. Je reviendrai au prochain message pour vous dire qu'est-ce qu'il en était. Y a-t-il quelqu'un ici qui connaît les 12 par cœur par leur prénom? Je suis comme vous. OK, fait que certains érudits pensent que Marc a écrit de lui-même, tu sais. Fait que lui, il faisait chaud peut-être, puis il dormait juste avec une couverte. Puis quand tout ça est arrivé, il a pris sa couverte, il est allé voir ce qui s'est passé, puis à un moment donné, on a voulu l'agripper, puis il y a quelqu'un qui a tiré sur le vêtement, puis il est parti flambette. OK, donc conclusion aujourd'hui. Une action injuste pour accomplir quelque chose qu'on veut être juste. Hein? On a vu aujourd'hui que 3 lois ont été brisées pour pouvoir accuser Jésus d'avoir brisé la loi. On a brisé la loi pour accuser un autre d'avoir brisé la loi. C'est vraiment pas génial. Quand on accusait Jésus, par exemple, dans son ministère, à un moment donné, Jésus va dire ceci. Le Fils de l'homme est venu, il mange, il boit, et il dit c'est un mangeur et un buveur, il est ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Fait que là, les gens te font une mauvaise réputation. Jésus, on lui faisait une mauvaise réputation. Et regardez qu'est-ce que Jésus répond. Et ça devrait être aussi notre réponse quand il y a toutes sortes de choses qui sont dites à notre sujet. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Autrement dit, si c'est sage, tu vas voir les œuvres qui viennent avec. Si tu dis que je bois, que je mange, je me tiens avec des prostituées, puis que je me tiens avec des publicains, des voleurs, bien, regarde les œuvres. Regarde les œuvres. La sagesse est justifiée, ça veut dire qu'elle a été approuvée par ses œuvres. Et parfois, il faut juste pas agir, plutôt que de se faire justice et dire non, arrêtez, comme Jésus dit, arrêtez. Essaye pas de réparer une injustice, tu vas en créer une autre. Laisse les fruits paraître. Les gens vont voir tout de suite qu'est-ce qui est juste. Dans le psaume 37, c'est écrit « Recommande ton sort à l'Éternel et agira. Laisse agir la colère. Hein? » Il dit, je vais le lire. « Mets en lui ta confiance. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. » Le soleil à son plus fort, là, ça, mets ça dans ta tête. C'est comme ça que Dieu va faire paraître ta justice. Jésus faisait le ministère, c'est un ami des prostituées puis des voleurs. C'est un gars qui mange puis qui fait de l'embon, qui mange, qui fait des excès de table puis qui boit. C'est un soulon. OK, t'as entendu ça? OK? Il fera paraître ta justice comme le soleil à son midi. Qu'est-ce qu'on voit de Jésus? Nous le voyons aujourd'hui couronné de gloire. Mais dans son ministère, ça a été que rejet, 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 rejet. Mais un jour, Dieu dit, il fera paraître notre justice. Mais nous, on prend notre justice dans nos mains parce qu'on ne croit pas que Dieu peut nous faire justice au temps convenable. Et psaume 37, c'est un bon verset qui nous dit, garde le silence devant l'Éternel, espère en lui. Si j'aurais voulu du secours, Jésus dit, j'aurais fait confiance à mon Père qui aussitôt m'aurait donné 12 légions d'anges pour ça. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire, car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Les méchants seront retranchés. Dieu va agir à un moment donné contre une personne qui est méchante, qui est injuste, qui n'agit pas comme elle devrait agir, parce que Dieu va agir. Et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Vous savez quoi? On a besoin d'écouter Jésus qui nous dit « Arrête! Arrête! Réfléchis! » Et demandez à Dieu d'agir dans nos vies. Sinon, on va répondre à l'injustice par l'injustice. Ça ne fera pas de nous quelque chose de... Ce ne sera pas un sel de la terre. On ne sera pas le sel de la terre. On va arrêter l'enregistrement. Je vais continuer avec une petite histoire. On a-tu arrêté là?
Ce message vous a fait du bien? Vous en voulez plus? L'Église Grâce et Vérité vous offre un site web sur lequel vous trouverez des messages en audio, vidéo et bien plus. Merci de nous honorer en les partageant sur les médias sociaux. Vous pouvez aussi laisser vos commentaires sur notre page Facebook ainsi que sur notre site web au www.grâceetvérité.org.